Formule 1 maintenant, vous le savez, c'est le Grand Prix d'Italie en fin de semaine, le Grand Prix de Monza, où nous retrouvons immédiatement Jacques Villeneuve. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Bon, les essais libres, c'est jamais là qu'il y a les grosses histoires en piste, mais cependant, tout un accident impliquant Marcus Ericsson, et c'est assez, tu vas me dire peut-être que c'est pas incroyable, mais de notre point de vue à nous, ça semble incroyable qu'il s'en sorte totalement indemne.
Non, c'était un accident impressionnant à voir, c'était des images incroyables, mais il n'y a pas eu de gros chocs. Donc c'était pas un accident dans lequel il allait se faire mal, c'est juste que la voiture est partie en pirouette, mais il n'y a pas eu de gros chocs, de grosses forces G, donc il n'y a pas de problème pour le pilote, mais c'était dû au fait que le DRS, donc l'aileron movible à l'arrière, ne s'est pas refermé, et au moment où il a sauté sur les freins, il était à 340 km/h, et donc oui, il a plus d'adhérence sur l'arrière, et ce qui est fou, c'est que on nous met plein de choses pour la sécurité à toutes les sauces, hein, le halo, il faut la sécurité, il faut tout protéger.
Oui.
Et après, on nous met des systèmes comme le DRS qui sont aussi très dangereux et qui sont nocifs.
Dis-moi, donc, c'est une défaillance technique carrément ou c'est, le pilote est en cause dans un accident du genre?
Non, technique, purement technique. Parce que dès que le pilote saute sur les freins, le DRS est supposé se fermer avec la force de l'air. Mais là, l'aileron, de la manière à laquelle il était dessiné, il ne s'est pas refermé.
Et là, il roulait à 340, que tu le dis, ça doit être...
Oui, ou 335, enfin, vite.
Et là, on a vu, puis c'était assez brusque, là, comme changement de trajectoire, on se demandait encore, je sais pas si tout de suite tu pouvais mettre le doigt sur ce qui venait de se passer, mais c'était assez spécial, là, comme manœuvre, tu te dis, c'est pas le pilote qui peut s'être flanqué dans le mur, là.
Non, c'était soit un... oui, ça aurait pu être le pilote, il aurait pu juste bloquer ses roues arrière... mais ça semblait être un problème mécanique, toute façon, dès le début.
As-tu déjà, je sais que tu as déjà eu des accidents, Jacques, mais un accident avec ce qu'on appelle, là, en bon québécois, des tonneaux, là, vraiment, là, virevoltés comme ça, c'est assez...
Oui? Oui, oui, et ça, on perd un peu l'équilibre, hein? on sait pas trop où on en est, ça on peut dire que ça réveille.
T'as l'impression de sortir d'un manège à la ronde?
exactement, mais avec le coup d'adrénaline en plus et surtout content de s'en être sorti.
Et ce qui est assez étonnant parfois, c'est que le gars, bon, content de s'en être sorti, mais a l'air content de retourner conduire également.
Il y en a eu plusieurs qui ont eu des gros accidents, qui retournaient tout de suite dans la voiture. Tant que le pilote ne s'est pas fait mal, aucune raison de ne pas y retourner.
Et j'imagine que dans le fond, tu veux même pas laisser le temps à quelque crainte que ce soit de s'installer psychologiquement, si jamais ça t'effleure l'esprit, là.
Non, ça effleure pas l'esprit des pilotes. C'est juste que, écoute, il y a la prochaine séance. Le pilote ne s'est pas fait mal. Il sait pourquoi il y a eu l'accident. Ça n'était pas une faute de pilotage, donc il n'a pas à se remettre en doute. Donc, aucune raison. Comme j'ai dit, hein, c'était impressionnant à regarder. C'était des images hallucinantes. Mais le choc lui-même n'était pas si gros que ça.
Il faut qu'un pilote fasse confiance à son équipe quand même, hein, parce qu'on voit à quel point, finalement, la vie, la santé d'un pilote peut dépendre de peu de choses en course ou à ces vitesses-là. Là.
Mais oui, mais ça, les pilotes le savent. Lorsqu'ils font ce métier, c'est un métier supposément à risque, qui ne l'est pratiquement plus, mais ça fait partie du métier. Donc, oui, et c'est une famille, hein. Faut faire confiance à sa famille, qui est l'équipe, à ses ingénieurs. Son coéquipier, on l'a renvoyé en piste 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, il y avait les problèmes, donc il rentrait tout de suite. Mais c'est vrai que c'était plutôt une crainte pour le coéquipier, tant qu'il n'était pas sûr que l'aileron fonctionnait correctement.
Ben, j'imagine. De la pluie en matinée, aujourd'hui, à Monza, la piste était sèche pour les essais en après-midi. Dans quelle ambiance on se retrouve, là? Quel temps fait-il à ce temps-ci de l'année à Monza, en Italie, Jacques? C'est quoi le contexte?
Ben, écoute, hier, il faisait 32 degrés. Aujourd'hui, il en faisait 15.
Oh boy!
Ben, c'est comme Spa. Hein. Spa, le vendredi, il faisait super chaud. Puis le lendemain, il faisait 12 degrés. Donc là, on est en train de passer rapidement à des sauts de température. Mais ce matin, oui, il pleuvait et tout le monde roulait. C'est hallucinant. On a l'habitude de voir les pilotes faire 2 ou 3 tours et ne pas rouler. Eh bien, aujourd'hui, ils ont roulé. Donc, c'était génial pour les fans parce qu'il y a une quantité de fans déjà assez nombreuses et enthousiastes pour un vendredi. Puis l'après-midi, sur le sec, on a vu les pilotes qui pilotaient agressivement. Ils étaient à l'attaque, dont Vettel, qui est parti à la faute, qui a à peine touché les pneus dans un virage très rapide, et qui est reparti. Donc, c'était assez excitant à regarder pour un vendredi.
Ben oui, je comprends donc. C'est ça, effectivement. Donc, il y avait beaucoup d'images sur les fils d'alimentation internationaux parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'actions en piste. Toi, retourné en Italie, Jacques, est-ce que tu as l'impression d'être encore un pilote actuel compte tenu de la magie du nom Villeneuve quand tu es là? T'es à la maison aussi, j'imagine?
Oui, mais quand je suis là pour parler à la radio, parler à la télé, donc je sais que je suis pas là en tant que pilote. Donc ça va, il y a pas ce souci-là ou ce doute ou même ça pourrait être difficile ou frustrant. Donc ça, il y a pas ce problème-là. Par contre, si c'est que comme lorsque j'étais à Trois-Rivières, j'allais là en tant que pilote, là c'est plus tout à fait la même approche.
Ce que les gens ne savent peut-être pas, Jacques, c'est que dans le fond, t'as un lien avec les Italiens parce que tu travailles en italien également. Tu collabores avec des médias italiens, la télé ou la radio là-bas, je crois.
Télévision italienne.
Ouais, et donc tu travailles, je sais pas s'il y en a beaucoup dans le monde de la Formule 1, tu travailles en trois langues vraiment avec des médias européens francophones, avec des médias italiens et avec nous au Québec. Est-ce que ça te permet de l'entretenir ce lien là avec les Italiens que le fait qu'ils te voient à la télé et que tu leur parles dans leur langue aussi?
Ah, mais j'ai toujours un lien assez spécial avec l'Italie déjà, ça commence avec Gilles parce qu'il roulait chez Ferrari. Ensuite, mes trois premières saisons en course automobile, c'était en Formule 3 en Italie. Donc, j'ai toujours un lien très spécial.
Mais ça doit leur faire plaisir de savoir que tu parles italien comme nous. Ça nous fait plaisir quand quelqu'un au Québec, exemple, qui vient d'ailleurs, dit quelques mots. Mais là, toi, c'est plus que quelques mots. Là, t'es vraiment fluide en italien. Ça doit amener la relation puis le niveau de respect, me semble, ailleurs.
Hein? Oui, ça fait une différence. Et c'est pour ça que, par exemple, Sébastien Vettel fait les entrevues en italien. Il parle italien aussi. Il l'a appris. Mais beaucoup de pilotes ont une base italienne parce que qui est due aux années de karting parce qu'il y a beaucoup d'équipes italiennes. Donc il y en a pas mal qui ont des bases italiennes. Mais oui, les pilotes qui font l'effort d'apprendre, de parler l'italien, ça fait énormément plaisir aux fans ici, c'est normal.
Bon, revenons à la course et surtout au Grand Prix en fin de semaine, les qualifs demain. Donc, on a constaté que les Ferrari, finalement, on se pose pas trop de questions. On sait que ça va aller vite encore une fois en fin de semaine.
Oui, mais c'est surtout que d'habitude, les Ferrari sont un peu en retrait le vendredi par rapport aux Mercedes et s'améliorent durant le week-end. Là, les deux sont devant. Mais ça fait trois Grands Prix où les Ferrari sont supérieurs, mais elles n'en ont gagné qu'une de ces trois courses. Donc, ça, c'est ça qui est difficile à porter. Mais on l'a senti au dernier Grand Prix. Hamilton voyait que c'est pas lui qui avait la main. Que la Ferrari, que Vettel allait aller plus vite à tous les Grands Prix et que lui, il allait devoir être sur la défensive pour essayer de garder son avance et que ça va être compliqué. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et maintenant, on voit que Lewis Hamilton doit se cracher dans les mains pour faire les chronomètres, pour se mettre presque au niveau des Ferrari. Oui. Et il fait la différence avec son coéquipier. Son coéquipier est à 4e, une demi-seconde, au lieu d'être dans les mêmes chronos. Et c'est là où on voit qu'il commence à y avoir une différence de performance entre la Ferrari et la Mercedes à l'avantage de la Ferrari.
Dernier Grand Prix de Lance chez Williams, vraisemblablement, Jacques?
Ah, on sait pas. Il y a quand même, c'est compliqué parce que Mercedes a des contrats avec Force India, des contrats pour la fourniture de moteurs, mais qui viennent aussi avec Esteban Ocon. Donc, il faut pas non plus fâcher Mercedes parce que l'équipe utilise des moteurs Mercedes, ce qui est primordial. Il y a le fait qu'il y a des contrats avec Williams où Stroll doit payer jusqu'à la fin de la saison. Enfin, il y a quand même d'autres complications, mais c'est ce qui se dit. Puis ça me semblerait logique que Lance aille préparer sa saison prochaine en allant déjà chez Force India. Et en plus, c'est une meilleure voiture. Donc, ça lui permettrait d'aller chercher des bons résultats en fin de saison, ce qui serait bon pour son moral aussi.
Jacques, sur ce, je te souhaite une excellente fin de soirée à Monza et bon week-end de Grand Prix là-bas. Au plaisir de te reparler au terme du week-end, bien sûr.
Merci, bye-bye, bonne soirée.
Merci et bonne fin de soirée à toi aussi, Jacques. Voilà, c'est tout pour nous, amateurs de sport. Le football des Alouettes dans quelques instants. Jean Saint-Onge et Steve Charbonneau en direct d'Ottawa. Le Rouge et Noir qui accueille les Alouettes. J'ai bien hâte de voir si le long week-end nous réserve une grosse nouvelle impliquant Max Pacioretty, le Canadien de Montréal. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve mardi, 18h30. Salut tout le monde.